vite, Mimi. On va louper le début.
Passe devant, j'écouterai. En podcast.
Si j'écris un journal personnel, je me parle à moi-même. Je choisis mes mots d'une certaine manière, alors que si mon texte s'adresse à quelqu'un d'autre, comme dans l'écriture d'un roman, je dois le prendre en compte, l'intégrer dans ce récit, me connecter à lui. Ça paraît évident et pourtant ce n'est pas simple. On parlera d'écriture justement aujourd'hui, avec Lecture en tête qui accueille son premier écrivain en résidence. Et dans la suite de cette émission, on restera dans le Vieux Laval puisqu'on se rendra au musée d'art naïf et singulier qui accueille ce 18 novembre une convention de tatouage. Et oui, c'est surprenant et se laisser surprendre, ça nous parle dans l'agité du local. L'émission se terminera avec la chronique de Soizic, un autre écho de l'écho qui nous rejoindra en studio dans quelques instants. Et bien sûr quand même, bonjour chers auditeurices et bonjour Lucie.
Bonjour.
Lucie, on est sur Laval aujourd'hui dans cette émission, mais je sais que tu jettes pour nous un œil sur tout le territoire pour nous parler de ces actus.
Et oui Margot, alors aujourd'hui c'est assez sérieux et dense, chers auditeurices, mais ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Pour commencer, je reste dans les coins. Laval Agglomération met en place une opération de recyclage des coquillages. On ne parle pas de ceux que vos enfants ramassent sur la plage et dont vous ne savez pas quoi faire, on parle bien de ceux qui sont dans votre assiette. Du 15 novembre au 7 janvier donc, les 10 déchetteries de Laval Agglo mettent à disposition des bacs spécialement dédiés à la récupération des coquillages vides qui seront ensuite compostés. Attention, seules les coquilles sont acceptées, les restes de poissons et crustacés ne sont pas recyclables de la même manière et il faut aussi bien penser à séparer tous les autres types de déchets, du style rince-doigts, ligatures plastiques, etc. pour permettre le bon traitement du recyclage. Coquilles et uniquement coquilles donc.
Tout ce tintouin, c'est parce que les coquillages nécessitent une préparation préalable avant le compostage. Mais si vous en avez, vous pouvez aussi donner les coquillages pilés aux poules pour renforcer les coquilles d'œufs.
C'est une autre manière de réduire ces déchets. Bon, et dans la même démarche, la communauté de communes du pays de Cran propose 3 ateliers de compostage. C'est organisé par l'association Les Pieds sur Terre et les ateliers seront mercredi 22 novembre à Cran de 18h à 19h15, samedi 25 novembre à Congrillé de 9h à 10h15, samedi 25 novembre à Cossé-le-Vivien de 11h15 à 12h30. Et pour réserver, vous pouvez contacter le service environnement au 02 43 09 61 64 ou par mail à environnement@paysdecran.fr. À présent, le centre hospitalier du Haut-Anjou, ou CHHA, de Château-Gontier, va intégrer le groupement de coopération sanitaire. C'est un groupement qui unit depuis 2013 les laboratoires de l'hôpital de Laval et de Mayenne. Cette nouvelle adhésion va permettre à l'hôpital de Château-Gontier de bénéficier d'un laboratoire géré par le GCS, le groupement, et d'avoir une équipe spécifique de 8 personnes qui est actuellement en train d'être formée. C'est une thématique qui est très actuelle et qu'on va d'ailleurs traiter pendant notre temps fort journalisme de demain, jeudi 16 novembre. On vous en reparle en fin d'émission.
Et en parlant des rencontres thématiques, Lucie, on va bientôt pouvoir rencontrer les élus de Château-Gontier aussi.
Tout à fait, Margot, puisque le maire de Château-Gontier sur Mayenne, Philippe Henry, et son équipe municipale vont vous proposer 5 réunions publiques du 17 novembre au 9 décembre. Et le premier rendez-vous sera donc le vendredi 17 novembre à 20h à la salle de Lamotte Vauvert, 7 rue des Salamandres. Il s'agira de parler gestion durable de l'eau, consommation d'espace et zéro artificialisation nette, mobilité, notamment mobilité douce, etc. Ensuite, chacun pourra poser ses questions et aborder les sujets qui lui tiennent à cœur. Une seconde réunion se déroulera le lendemain, samedi 18 novembre à 10h30, salle des Flamandes, rue Louis Froumont, sur la commune déléguée de Saint-Fort.
Et maintenant, comment ça se passe niveau solidaire sur le territoire?
Eh bien, malheureusement, la campagne d'hiver s'annonce difficile pour les bénévoles des Restos du Cœur du centre d'Evron. La crise financière que traverse l'association les met en difficulté pour subvenir aux besoins de tous leurs bénéficiaires. Un peu de positif cependant, l'établissement et service d'aide par le travail, ou ESAT, de l'association Robida à Port-Brillet, ouvre ses portes pour faire découvrir tout ce qui s'y passe et par exemple le centre d'accueil de jour. C'est un centre qui est ouvert à temps partiel ou à temps plein, aux adultes en situation de handicap psychique et mental et qui permet entre autres, entre plein d'autres choses, une transition pour ceux qui ont des difficultés avec le travail. Robida vous accueille donc le vendredi 24 novembre 2023 de 10h à midi et de 14h à 17h à Port-Brillet, 22 chemin de Robida, mais également à Saint-Berthevin, 18 rue Louis-Renault. Bon, et puis Margot, chers auditeurices, je voudrais conclure cette brève par une actualité en fil rouge qui est assez sérieuse depuis un petit moment maintenant. Les syndicats de Mayenne s'unissent pour demander un cessez-le-feu immédiat en Israël-Palestine. C'est donc la CFDT, la CGT, la FO, l'UNSA, la FSU et Solidaires de la Mayenne qui expriment, je cite, leur grande inquiétude face à la dégradation de la situation humanitaire, déjà préoccupante avant le déclenchement du conflit. Ils appellent à un cessez-le-feu immédiat, donc, à l'ouverture de corridors humanitaires, à l'établissement des conditions qui assurent aux civils l'accès aux besoins fondamentaux et à la libération des otages et détenus sans fondement juridique. Ils exigent notamment que la France s'engage activement dans ce sens.
On vous avait parlé de cette nouvelle saison de Lecture en tête à Laval. Hier, on a été y faire un tour. Eh bien, on y a fait une belle rencontre. Écoutez. Néhémie Pierre Dahomey est écrivain, poète et philosophe. Il vit aujourd'hui à Paris, mais il est né à Port-au-Prince. Il se tourne d'abord vers la poésie puisqu'il publie en 2010 une plaquette de vers intitulée « Emmuré ». Son premier roman s'est rapatrié qu'il publie en 2017 aux éditions du Seuil. Il est d'ailleurs plusieurs fois primé. C'est grâce au prix de la Société des gens de lettres qu'il fait la rencontre de Lecture en tête au festival du premier roman en 2018. Il passe ensuite à la réalisation avec un court-métrage mais revient à la littérature avec son second roman, Combat, en 2021. Écoutez, car il semblerait bien qu'il soit de retour par ici. Il est accueilli en résidence d'écriture pendant 12 semaines en Mayenne. C'est hier qu'a eu lieu le lancement de cette résidence à Lecture en tête, Grande Rue à Laval.
Je suis très content d'être là pour cette résidence de 3 mois, échelonnée magnifiquement par ces jours de 3 semaines. Là, je suis là pour 3 semaines. En janvier, je serai encore là pour 3 semaines et deux autres fois sur l'année 2024.
Mais alors, qui dit résidence d'écriture dit troisième roman en cours.
Écoutez, une belle coïncidence encore, je suis en train d'en écrire la fin. J'ai écrit le roman, il ne me reste que la fin. Alors, je suis un peu dans un schéma narratif classique quand j'écris, c'est-à-dire j'aime bien que le roman ait un début, un milieu et une fin, c'est-à-dire une fin où se dénouent 2-3 choses qui ont eu lieu pendant le roman. Voilà pourquoi la fin représente toujours un moment important. On parle souvent de moments paroxystiques, de climax, enfin de moments où certaines choses se dénouent. Où il ne s'agit pas seulement d'un exercice rhétorique vain, mais d'une proposition qui trouve un dénouement à un moment donné. Et bien, ce dénouement, je suis en train de le chercher maintenant.
Néhémie animera plusieurs ateliers sur le territoire. Il me semble que le premier commence bientôt d'ailleurs, le 23 novembre, et il s'appelle Éthique érotique.
À part les romans d'amour, une autre chose est difficile à faire, c'est les romans érotiques. Je trouve vraiment très difficile de faire des romans érotiques. J'ai essayé d'en lire, ça me satisfait rarement. Pour une raison très simple, quand on écrit un texte qui nous émoustille nous-mêmes, on est suffisamment émoustillé pour ne pas arriver à émoustiller le public. Et l'inverse est aussi vrai. Quand on écrit un texte qui émoustille le public et a des fins pour exciter le public, on n'est pas excité nous-mêmes. Par conséquent, il manque un peu d'âme. Donc, on est pris entre ce piège, est-ce qu'on écrit pour nous-mêmes ou pour le public, qui fait que le roman, le texte érotique est très difficile à appréhender. Alors, comme très difficile ne suffisait pas, j'ai cherché une difficulté supplémentaire de ne pas écrire moi-même, mais de faire écrire les autres. Et les autres, qu'il faut entendre par là, des gens timides, très différentes, ou des gens qui peuvent être expansifs, mais qui ne sont pas les mêmes. Et arriver à créer une atmosphère de confiance telle que... de confiance et de créativité. De telle sorte que les gens arrivent à parler de leur intimité sans être nus physiquement ou intellectuellement, c'est un petit défi qu'on s'est donné.
Et alors, pourquoi éthique ?
Alors, éthique érotique, bon, premièrement parce que le jeu de mots était sympathique à faire et parce qu'il y a un vrai enjeu contemporain de pouvoir parler d'érotisme sans être niais et sans non plus être agressif dans les deux sens du terme. Par conséquent, éthique érotique, c'est un atelier qui ne va pas forcément parler d'éthique dans le sens philosophique du terme, mais qui va surtout aborder des sujets érotiques tout en ayant en tête l'aspect, non destructeur de l'érotisme. Parce que comme toute chose intéressante, l'érotisme peut être très destructeur. Et comme mon but, ce n'est pas de détruire les gens à Laval, le but, c'est vraiment d'explorer cet aspect de la littérature très difficile. Je vais vous faire vous rendre compte. À chaque fois que vous pensez à un roman d'amour, vous pensez à un livre clivant, très classique, ou un livre qui n'existe pas. Il est très difficile de dire un auteur contemporain que vous connaissez, que vous aimez, qui vous a donné beaucoup de plaisir dans un roman d'amour. C'est très difficile. J'ai fait le test, peut-être que vous ne l'avez jamais fait. J'en ai parlé à des amis, leur demandant très simplement quel est le dernier roman d'amour que vous avez aimé. Certaines personnes de ma génération, un peu trentenaire, quarantenaire, me sortent Belle du Seigneur, qui est vraiment un très mauvais roman. Hein. Ce livre est affreux. Il est mal écrit, lourd. Je trouve que les sentiments ne sont pas fins du tout. Enfin, c'est un très mauvais livre. Mais le succès de ce livre me rappelle à quel point il est difficile d'écrire un bon roman d'amour. Et le roman érotique, c'est autre chose encore. Il fut un temps, j'étais sadien, vous savez, pendant mes études. Pendant mes études, quand j'avais 20 ans, 21 ans. Et je lisais les romans de Sade. Même si ça avait effectivement une charge très subversive pour un jeune homme, ce qui est normal, il reste que la dimension romanesque, comme chacun le sait, a toujours été négligée. C'est chez les grands auteurs libertins comme Sade ou Mazorque ou d'autres. Je suis encore en peine d'une littérature érotique qui mette vraiment sur le même plan littérature et érotisme dans le même bouquin. Vous comprenez toute la difficulté de l'atelier qui va s'ouvrir.
Alors, il ne reste plus beaucoup de place pour cet atelier, une ou deux, et je vous rappelle que l'inscription est gratuite. L'atelier s'étend sur 5 dates, il faut être présent sur chacune d'entre elles. Vous pouvez vous inscrire sur place ou sur le site internet de Lecture en Tête. Le temps de se rendre au musée d'art naïf et singulier à quelques rues de Lecture en Tête, on écoute Great Fortune de Oda. Ski. quai d'art de la toile à la peau. C'est un événement qui aura lieu au Musée d'art naïf et singulier à Laval ce samedi 18 novembre. C'est une idée originale qui croise les arts. Elle a attisé ma curiosité, elle séduira la vôtre. Écoutons Cyrielle Langlais. Elle nous raconte comment c'est né, elle nous raconte ce qu'il va se passer.
Donc Cyrielle Langlais, je suis responsable adjointe du service des musées d'art à Laval.
Donc le 18 novembre, vous accueillez un événement particulier.
Oui, tout à fait. Le 18 novembre, on organise une journée à laquelle on pense depuis un bon moment maintenant, qui est une journée qui s'intitule Piqué d'art, de la toile à la peau, puisque c'est une convention de tatouage que l'on appelle muséale, puisqu'en fait, on a lancé un défi à 7 artistes tatoueurs. Dans notre parcours permanent, on compte 7 salles, 7 thématiques, et donc on invite 7 artistes, un par salle. Tout l'objectif pour eux, le défi qu'ils doivent relever, c'est de réaliser d'ici le 18 novembre des flashs, donc des dessins uniques inspirés de la collection.
Comment vous est venue cette idée qui est assez originale ?
C'est une idée à laquelle on pense depuis longtemps, en fait même depuis plusieurs années. Le cheminement de pensée, il est très simple, c'est que dans notre collection, on retrouve des artistes autodidactes, naïfs ou singuliers. Or, c'est une caractéristique que l'on peut retrouver chez pas mal d'artistes tatoueurs. Donc ça, c'était la première idée. Et puis, c'est aussi une idée qui est venue parce que c'est une habitude que l'on a beaucoup dans notre structure de croiser les champs, d'inviter d'autres artistes à regarder notre collection, à nous proposer leur point de vue. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'organiser un dialogue artistique. Je peux peut-être parler d'abord de celui qui a travaillé avec moi sur cette journée un peu particulière, sur l'organisation de cette journée. C'est Bengal, qui est un artiste tatoueur nantais. Je l'avais sollicité comme artiste tatoueur intervenant et il a tellement adhéré au projet, il a tellement été enthousiaste qu'il a proposé de se faire le relais auprès d'autres tatoueurs. En fait, en découvrant les différentes salles et les différentes thématiques, donc on a une salle notamment sur la thématique du portrait, image de soi, image de l'autre, une salle plutôt sur la thématique nature, une autre sur une thématique mythe, mythologie, religion. Et ben, en fait, dans chacune des salles, en découvrant le musée, il pensait à un artiste tatoueur. Et donc, il m'a dit tout de suite qu'il pensait les contacter pour pouvoir les solliciter sur cette journée inédite, parce que vraiment, il a complètement adhéré au projet.
Et donc, les différents tatoueurs qui viendront donc le 18 novembre, est-ce qu'ils sont tous nantais ?
Alors, parisiens et nantais, pour beaucoup d'entre eux. Alors, on pourrait me demander pourquoi pas de Lavallois. Là, l'idée, c'était vraiment de créer un lien avec la collection. Donc, le choix, il s'est plutôt fait sur des connexions artistiques. Du reste, on s'interdira pas s'il y a une autre édition de prendre attache avec des locaux. Mais là, c'était vraiment l'ambition d'un échange en fait qui semblait évident, d'un lien à tisser entre des tatoueurs et des artistes naïfs et singuliers.
Et donc, est-ce que vous avez les noms peut-être des différents tatoueurs qui seront présents ?
Alors, c'est une liste de 7 tatoueurs. Donc, en effet, il y aura Bengal qui sera présent dans la salle Miroir de vie, Pierre Pou dans la salle Composée en toute liberté. Donc là, il propose un univers qui est vraiment peuplé de personnages imaginaires et d'objets humanisés, pardon, de lignes, de courbes, de contre-courbes. Donc là, on pourra avec lui célébrer le mouvement. Avec Yule, nous serons dans la salle Matière à sensations, qui est une salle dans laquelle on va retrouver des artistes qui explorent une manière de créer avec toutes sortes de matériaux. Là, c'est une démarche chez Yule qui rappelle, je trouve, l'ignorant style, qui est un style de l'art urbain qui mêle une certaine pureté, avec un trait minimaliste et spontané. Donc je disais Bengal en salle Miroir de vie. En fait, Bengal, ce que je trouvais intéressant dans sa présence, c'est qu'il se dit conteur d'histoires sur peau. Et dans cette veine de miroir de vie, de portrait qui raconte en fait nos personnages, qui raconte les modèles, je trouvais qu'il y avait là un lien vraiment très intéressant. En salle 4, nous accueillerons Flex Mecca, qui lui propose des dessins labyrinthiques qui sont peuplés de végétation luxuriante. Donc le lien, là, il était vraiment tout à fait évident. en salle 5, la salle Obsession, on retrouve des artistes qui ont des motifs comme ça, qu'ils répètent, avec vraiment voilà, des œuvres avec beaucoup d'itérations. On va retrouver Jim Killam, qui lui propose un monde céleste, où on va là aussi retrouver des itérations infinies d'astres solaires, d'étoiles. On a un univers qui nous compte le rêve, le songe, des personnages qui semblent murmurer leurs espoirs, voilà, dans l'univers de Jim Killam. Donc je trouvais là aussi qu'il y avait un dialogue intéressant. Pour la salle 6, culte et art fabuleux, où on a plutôt un propos autour de la religion, de la mythologie, des arts fabuleux, on va accueillir Petit Jacquard, qui propose lui un bestiaire fantastique. Il livre des dessins puissants où semblent être évoqués des contes populaires. Donc là encore une fois, il y a toute la liberté de créer un dialogue. Et puis en salle 7, Kitsch Cat, pour le réel à l'épreuve, qui est une salle où on va traiter plutôt de thématiques historiques, relater des événements réels pour un peu les transcender, voire les critiquer parfois. Et chez cet artiste tatoueur, on a beaucoup de réalisme, mais aussi beaucoup d'humour. C'est un travail qui provoque un peu, amuse parfois, et qui lui aussi voilà, s'approche du réel pour mieux le réinventer. On va retrouver aussi des figures animales chez cet artiste qui se joue des détails avec facétie et drôlerie.
Et donc, comment ça va se passer ? Donc, les tatoueurs seront installés au milieu de la salle avec les œuvres du musée tout autour.
C'est vrai que c'est assez inédit comme aventure. On propose au public qui voudrait se faire tatouer de prendre contact directement avec les artistes en amont. Donc là, l'idée, c'est d'aller sur leur compte Instagram, d'envoyer des messages en direct. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur leur compte réseaux sociaux dès maintenant, puisqu'ils commencent à poster les dessins qu'ils tatoueront le jour J. Donc je sais qu'il y a quelques rendez-vous qui commencent à être pris. Donc il y a cette possibilité-là. Vous pouvez aussi tenter votre chance le jour J. Vous présenter directement auprès d'eux et leur demander s'il y a un créneau de disponible. Et puis pour ceux qui voudraient juste être spectateurs, c'est possible. Hein. On est ouvert toute la journée entre 9h et midi, 13h30 et 18h. Et on pourra visiter comme d'habitude le musée avec cette petite particularité de retrouver dans chaque salle des tatouages en cours.
Vous exposez plusieurs artistes actuellement au musée d'art naïf et singulier. Combien vous avez d'artistes, vous, actuellement ?
C'est une très bonne question que je me suis encore posée la semaine dernière. Alors, je sais qu'on a environ 250 œuvres dans la collection permanente. J'en profite pour rappeler qu'on a des expositions temporaires. On accueille environ 7 expositions temporaires chaque année. Et en ce moment, notamment, on accueille le travail de Noma, qui est un artiste singulier qui a cheminé de manière autodidacte aussi dans le développement d'une technique personnelle. Le nombre d'artistes exactement, je ne l'ai pas en tête, mais le nombre d'œuvres, on est à peu près sur 250 sur la collection permanente. Et puis après, on ajoute peut-être une centaine d'œuvres dans l'expo qui se trouve à l'étage, et puis au rez-de-chaussée, une cinquantaine d'œuvres peut-être.
Et voilà, on est de retour dans les studios de l'autre radio avec l'agité du local, votre rendez-vous quotidien. Et juste après le morceau que Lucie nous propose aujourd'hui, eh bien c'est la chronique, un autre écho de l'écho de Soizic qui nous a rejoint. Bonjour Soizic.
Bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler, ce qui a fait la une de pas mal de journaux, de la décision du Conseil d'État de ne pas dissoudre les soulèvements de la Terre.
On t'écoute.
Qui vont sans doute continuer à se soulever, du coup.
On t'écoute dans quelques instants. Justement, Lucie, tu nous proposes quel morceau maintenant ?
Eh bien, aujourd'hui, Margot et Soizic, j'avais besoin d'un peu de peps et de bonnes vibes. Et puis, chers auditeuristes, parfois, on se sent un peu la personne bizarre du coin avec nos habitudes bien à nous. Eh bien, je vous propose de se rassurer ensemble avec le groupe indie-pop londonien, qui est aussi un chouette groupe de 8 copains, Super Organisme. C'est leur premier morceau sorti en 2017. On écoute Something for Your Mind de Super Organisme.
I know you think I'm a psychopath, Democrat lurking in the dark. This sucks, I'm the Kmart soldier, so do trash. I kept the stash of coca candy straight from Japan. Called my grandma and she was never as young. Think you know what I need to get by.
something for your mind. Something for your mind. Something for your
I know you think I'm a sociopath. My lovely prey, I'm a cliche. Make way, I'm in my Pepsi moon. Mama needs food, how about a barbecue? For us, the bourgeoisie, so carefree. Remember when we? I don't know why you need to get by.
Something for your mind. Something for your mind. Something for your, for your, for your
fire.
Et ça y est, c'est le moment de la chronique de Soizic, un autre écho de l'écho.
Oui, alors Margot, il ne vous a pas échappé que vendredi dernier, le Conseil d'État a annulé la dissolution des soulèvements de la Terre. Et ça, ça n'est pas une mince affaire, parce qu'en effet, cette décision montre une fois de plus que les juges prennent acte d'une part, de la gravité de la crise environnementale que nous vivons, parce que au cas où certains de nos auditeurs penseraient que le désengage de la planète serait pour après-demain, j'ai quand même le regret de leur annoncer que non, hein, on est déjà en plein dedans. Donc, les juges sont devenus écolos, et d'autre part, eh bien, ils relèvent l'inaction de l'État et lui donnent tort lorsqu'il veut interdire l'action radicale en faveur du climat. Les éco-terroristes qui font si peur au ministre de l'Intérieur ne sont donc plus des terroristes, mais seulement des écolos, et se retrouvent auréolés d'un statut à tout le moins de lanceur d'alerte, décidément, voire de sauveur de la planète et de l'humanité, rien que ça, imaginez un peu. Alors, posons-nous deux questions. Premièrement, qu'est-ce qu'exactement que le Conseil d'État ? Deuxièmement, comment cette décision va-t-elle influencer les futures ou actuelles, d'ailleurs, manifestations écologiques contre les projets d'infrastructures décidés par le gouvernement ? Alors, rappelons ce qu'est le Conseil d'État tout d'abord. Eh bien, c'est une institution, curieusement, héritée du Conseil du roi de Louis XIV et revisitée par Napoléon Bonaparte en 1799. Son objectif, c'est de trancher lorsqu'un citoyen est en bisbille avec l'État. Autrement dit, si vous considérez que l'État vous maltraite ou use de violences institutionnelles injustes, notamment en termes de liberté fondamentale comme la liberté d'expression, eh bien vous pouvez porter plainte contre lui, d'abord auprès du tribunal administratif, et puis si la décision de ce dernier ne vous convient pas, eh bien vous faites appel auprès du Conseil d'État. Alors la nouveauté depuis quelques années réside dans le fait que les associations écologistes font de plus en plus fréquemment appel à lui pour forcer le gouvernement à prendre réellement la mesure de la crise environnementale et donc le forcer à proposer des solutions ad hoc. La première association à avoir esté, comme on dit, le gouvernement en justice pour un tel motif, c'est l'affaire du siècle. Le Conseil d'État avait alors déjà tranché en leur faveur et condamné l'État pour inaction climatique. La semaine dernière, c'était donc au tour des soulèvements de la Terre de faire pencher la balance de la justice en leur faveur. Plus question d'écoterrorisme ni de dissolution du mouvement. Vous parlez d'une claque pour le gouvernement.
Mais alors, quelles vont être les conséquences d'une telle décision, Soizic ?
Eh bien, vous comprenez bien, Margot, que cela va renforcer les militants écologistes dans leur conviction et leur détermination à engager des actions de désobéissance civile quand il y a de projeter des projets contraires au bien-être de la planète. Les écologistes avaient déjà gagné, on s'en souvient, 1-0 contre le gouvernement dans le conflit de Notre-Dame-des-Landes, rebelote avec Sainte-Soline. Alors évidemment, ça a de quoi doper les associations pour continuer le combat. Et ces combats, ils sont nombreux dans les mois à venir. Que ce soit la construction de l'autoroute 69 entre Toulouse et Castres, au doublement de l'aéroport de Beauvais, en passant par la ZAD du Glacier de la Girose, les motifs de conflit entre développement économique à court terme et préservation environnementale à long terme, eh bien ne manquent pas, je vous assure. Alors, moi, très honnêtement, je parie sur l'abandon de ces projets, tant les décisions du Conseil d'État vont booster les militants, déjà par définition totalement investis pour la cause, puisque certains vont même jusqu'à mettre leur vie en danger par une grève de la faim.
Alors, quelles leçons tirer de tout ça ?
Eh bien, tout cela reste quand même un peu ambigu en termes de démocratie. Alors, d'un côté, on ne peut que se réjouir de l'indépendance de la justice par rapport à l'exécutif. Que les juges soient indépendants du politique est une caractéristique majeure de la démocratie et un état de droit. D'un autre côté, on peut quand même se demander comment se fait-il qu'un régime de gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est la définition que donnait Lincoln de la démocratie et qui fait consensus en sciences politiques, donc que ce gouvernement qualifie de terroriste au même titre que le Hamas ou les auteurs des attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan, faut le rappeler quand même. Donc il qualifie de terroriste des citoyens, alors que ces mêmes citoyens, selon les juges, selon le droit, n'appellent en aucun cas à la violence envers des personnes ou des biens. Comment expliquer un tel décalage ? Voyez-vous, Margot, on se trouve là devant une des nombreuses explications de notre fatigue démocratique. Vouloir régner en s'attaquant aux libertés publiques, plutôt que de faire de la vraie démocratie en délibérant, en expliquant et aussi parfois en reconnaissant qu'on a tort, que ce soit du côté des associations ou des gouvernants, eh bien cela ne fait qu'exacerber les tensions. Alors face à de telles oppositions, incompréhensions et violences institutionnelles, ne nous étonnons pas de la radicalisation des associations militantes, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire.
Merci Soizic, merci beaucoup pour ce retour en force dans la JT du local.
J'étais en forme, je reconnais.
Oui, non, mais c'est super intéressant encore comme d'habitude. Merci Soizic.
Bonne journée à tous.
Et donc on arrive à la fin de cette émission. Votre soirée commence avec Novorama à 19h.
Et oui, chers auditeurs, chaque semaine, l'émission propose de nouveaux albums dans le genre rock, pop, électro. Et elle vous fait découvrir avec des interviews d'artistes et des chroniques.
Alors cette soirée commence vraiment bien et elle continue à 20h.
C'est ça, avec The Voice of Cassandre, des mixtapes et des playlists, comme chaque semaine.
Et à 21h, on écoutera Chaosphère.
Aujourd'hui, l'émission parle du Samin Festival, des 40 ans de destruction au Warehouse de Nantes et des 25 ans des tourneurs de Garmont-Bosia à Rennes.
Le mercredi soir, on parle musique sur l'autre radio. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On sera avec vous demain à la même heure et on fera un focus sur ce temps fort, sur le journalisme de proximité que l'autre radio vous propose à Château-Gontier demain toute la journée. Je vous souhaite que la suite de cette journée vous soit agréable. Parlez-vous, parlez à votre voisin, parlez aux gens qui vous entourent. Enfin, vous avez compris, aujourd'hui, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.